Ce message est intitulé « Ce jour-là au calvaire ». Il fut prêché le 26 septembre 1960, le matin, dans le tabernacle de William Branham à Jeffersonville, Indiana. La parole proclamée est la semence originelle. Que Dieu vous bénisse, frère Neville, et merci beaucoup. Bonjour, mes amis. C'est une faveur d'être de nouveau ici au tabernacle ce matin pour servir le Seigneur en proclamant la parole et en priant pour les malades. Et je lui suis très, très reconnaissant pour cette journée. Je suis très surpris en entrant ici. Un frère se dirigea vers moi et dit, « Je ne veux pas être comme le lépreux indigne qui a été guéri. » C'était frère White. J'ai prié pour lui et le Seigneur l'a complètement guéri. Il est venu en pleurant pour me serrer la main et pour me dire qu'il voulait remercier le Seigneur de sa guérison. Il voulait revenir pour remercier le Seigneur. Il va parfaitement bien maintenant. Nous sommes reconnaissants de ces témoignages. Nous sommes heureux. Je crois que l'on a dit une fois, « J'étais heureux quand on m'a dit, allons dans la maison du Seigneur. » Cela est le privilège et la joie du chrétien. Allez dans la maison du Seigneur. Je vois tant de mes amis ici ce matin que j'en suis vraiment très heureux. Aussi, nous attendons-nous à passer des heures extraordinaires ce matin avec le Seigneur. Nous nous attendons à ce que Dieu nous rencontre pour bénir nos âmes et nous donner les choses dont nous avons besoin. En regardant la salle, je pense que si je saluais tous mes amis ici présents, cela prendrait la plus grande partie de la matinée. Cela me fait du bien, en revenant dans cette église, de voir tous les gens présents et de rencontrer. Oh, que sera-ce quand nous arriverons au ciel et que nous nous y rencontrerons pour l'éternité, dans une communion éternelle autour du trône de Dieu et recevant les bénédictions que nous avons tous chéries. Là, nous serons faits à son image, avec son esprit sur nous pour l'adorer et le servir pour l'éternité, sans jamais nous fatiguer. Réfléchissez. Tout ce à quoi vous pouvez penser que vous aimez faire, il arrive un moment où vous vous fatiguez de le faire. Charlie, je pense que toi et moi, nous avons aimé chasser l'écureuil plus que toute autre chose. Mais vous savez que c'est fatigant. Et j'aime la marche. J'aime aller dans les montagnes et marcher, mais quelquefois je m'en fatigue et je veux faire autre chose, et j'aime conduire. Quelquefois, je me sens très fatigué et les nerfs à fleur de peau. J'ai envie de sauter dans ma voiture, de prendre le volant et de rouler en chantant. Je suis si content que je peux dire que je suis le plus heureux homme du monde. Prendre simplement le volant et chanter, taper des pieds et crier. Mais quelque temps après, je me sens fatigué et je rentre à la maison et je fais quelque chose d'autre. Mais quand nous adorerons Dieu dans ce nouveau royaume, il n'y aura jamais un moment de fatigue. Ce sera une bénédiction perpétuelle. Mais naturellement, nous serons changés à ce moment. Nous ne serons pas comme nous sommes maintenant. Nous serons différents, des êtres différents de ce que nous sommes maintenant. Aussi, nous serons heureux. J'étais en train de penser, je ne sais pas si j'en ai jamais parlé, frère Charlie. Il y a quelque temps, j'étais avec lui dans le Kentucky, et il me dit, « Frère Branham, pensez-vous que dans le millénium, vous, toi et moi, nous chasserons l'écureuil ?» Je répondis, « Je ne crois pas, Charlie. » Il dit, « Mais nous aimons tellement cela. Penses-tu que nous le ferons quand nous serons dans le millénium ?» Je répondis, « Non. » On ne tuera pas dans le millénium. Et il dit, mais pourtant, nous aimons chasser l'écureuil. Je dis, que penserais-tu, Charlie, si je pouvais te convaincre qu'à un moment donné tu étais un porc, et que tu t'es élevé à un être supérieur pour arriver à devenir un être humain? Voudrais-tu redevenir un porc et jouir des plaisirs d'un porc? Non, dit-il. Je dis, tu vois, tu seras tellement plus haut qu'un porc. Mais maintenant que tu es humain, tu ne voudrais plus jamais redevenir un porc. Maintenant, multipliez cela par 10 000, et c'est ce que vous serez quand vous serez devenu ce que vous devez être. Vous ne voudrez plus jamais redevenir un être humain. C'est vrai, ce sera quelque chose de différent. Je suis si heureux rien qu'en y pensant, savoir qu'un jour nous monterons plus haut. Bon, maintenant, si le Seigneur le veut, dimanche prochain, nous parlerons de... Puis je vais partir pour aller dans le Wyoming avec un ami à moi, un bon ami à moi, et dans le Idaho avec un ami à moi aussi, frère Minor Argenbright et frère Clayton Sunmoor de l'Association des hommes d'affaires chrétiens. La semaine après la semaine prochaine, c'est le 7, je dois être à Dallas, dans le Texas, à la convention de la Voix de la Guérison, et je dois y parler le 7 au soir. Et puis je reviendrai pour repartir en Idaho avec frère Argenbright et les hommes d'affaires chrétiens, et je passerai peut-être une nuit à Minneapolis avant notre départ, puis un petit déjeuner avec les hommes d'affaires chrétiens. Si le Seigneur le veut, dimanche prochain, le matin, je veux revenir ici dans le tabernacle, et si cela est possible, et si c'est la volonté du Seigneur, je veux parler sur le sujet « Le tourbillon dans le vent ». Si le Seigneur le veut. J'y ai pensé toute la semaine. Et l'autre matin, vraiment de bonne heure, vers 4 heures du matin, je me suis éveillé et j'ai eu cette pensée. Ce jour-là, sur le calvaire. Je veux parler sur ce sujet ce matin, ce jour-là, sur le calvaire. Maintenant, pour cela, prenons notre Bible, l'Évangile de Saint Matthieu, le chapitre 27. Et nous commencerons au verset 27, et nous lirons un passage de cet évangile pour nous mettre dans l'ambiance. Puis nous commencerons immédiatement après, et après le sermon, nous prierons pour les malades. Depuis la dernière fois où j'ai parlé ici, rappelant les grandes lignes de mon nouveau genre de ministère, j'ai reçu plus de lettres concernant cette réunion que je n'en avais reçu depuis très longtemps. Ce ministère repose sur le fait que vous devez toucher le malade sans vous occuper de son apparence surnaturelle. Mais vous voyez, la guérison doit reposer sur la foi individuelle. Maintenant, si le pasteur a la foi, et s'il voit que le Saint-Esprit plane sur l'assistance, et s'il dit des choses vraies telles que « Vous vous appelez un tel, vous venez de tel endroit, etc. Vous avez fait telle et telle chose, et il vous arrivera telle chose. » et que l'on voit que tout ceci est exact, et que pourtant le malade assis, là, lève les yeux et dit « Ce doit être Dieu, j'accepte ma guérison. » Mais, si au lieu de cela la personne dit « Posez vos mains sur moi et priez pour moi, afin que je sois guéri. » C'est la façon dont on nous apprend ici en Amérique à croire cela, et c'est certainement conforme aux Écritures. Mais en Afrique et dans différents endroits, que quelque chose de ce genre arrive, et toute l'assistance se lève en même temps et accepte sa guérison, parce qu'on ne leur a rien appris, on ne leur a même pas parlé de la guérison. Et quand ils voient cela, ils savent qu'il y a un Dieu vivant, et s'il vit, il est suprême, et il guérit, et voilà, parce que la base, la fondation est déjà posée, qu'il est celui qui guérit, et qu'il guérit les gens. Puis, quand ils voient cette présence œuvrée dans son Église, alors ils disent, cela suffit, c'est tout ce dont nous avons besoin. Mais on nous a appris à imposer les mains sur les malades et autre chose du même genre. C'est pour cela que ce n'est pas tellement répandu en Amérique. Maintenant, souvenez-vous, dimanche prochain le matin, si Dieu le veut, naturellement, frère Neville l'annoncera, le sujet, un tourbillon dans le vent. Maintenant, je vous ai donné un peu de temps pour prendre votre évangile de Saint Matthieu, le chapitre 27. Commençons à lire au verset 27. Maintenant, écoutez attentivement sa lecture. Les soldats du gouverneur emmenèrent alors Jésus dans le prétoire et assemblèrent autour de lui tout le peloton. Ils le déshabillèrent et lui passèrent un manteau d'écarlate. Puis ils tressèrent une couronne d'épines et la lui mirent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main. Voyant le genou devant lui, il lui disait par manière de dérision, « Salut, roi des Juifs !» Il lui crachait au visage, prenait le roseau et lui en donnait des coups sur la tête. Après l'avoir ainsi bafoué, Ils lui enlevèrent le manteau et lui remirent ses vêtements, puis on l'emmena pour le crucifier. En sortant, ils croisèrent un homme de Cyrène nommé Simon, qu'ils contraignirent à porter sa croix. Arrivé au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais refusa de le boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Ainsi s'accomplissait l'oracle du prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Psaume 21-19. Ils s'assirent et montèrent la garde. Au-dessus de sa tête, on avait affiché le motif de condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifia près de lui deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient. Ils hochaient la tête en disant, « Toi qui peux détruire le temple et le rebâtir en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les grands prêtres avec les scribes et les anciens le raillaient d'eux-mêmes. Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, c'est le moment de descendre de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, qu'il le tire à présent de là s'il l'aime tant, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Et les brigands crucifiés avec lui l'outrageaient d'eux-mêmes. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, l'obscurité se fit sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lema sabachthani ?» Ce qui veut dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ces mots, quelques assistants dirent, « Il appelle Eli. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et lui offrit à boire au bout d'un roseau. Les autres disaient, « Laisse-nous voir si Eli va venir le sauver. » Cependant, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs justes trépassés ressuscitèrent. Sortis de leur sépulture, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à plusieurs personnes. Le centurion et ces hommes qui montaient la garde de Jésus, devant ce tremblement de terre et tout ce qui se passait, sous l'effet d'une extrême épouvante, dirent « Cet homme était véritablement le Fils de Dieu. » Évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 27 à 54. Baissons la tête pendant un moment pour prier. Seigneur, nous savons que tu es Dieu. Et après avoir lu cette parole sainte et sacrée, nous pouvons encore voir que ta nature n'a pas changé. Tu es toujours Dieu. Et il semble que Jésus n'allait recevoir aucune aide, qu'il a été saisi par des mains sacrilèges qui l'ont déchiré, qu'on lui a craché dessus, qu'on s'est moqué de lui, et qu'on l'a mis en croix mourant et ruisselant de sang. Et il apparaît qu'il n'y eut aucune aide de nulle part, jusqu'à ce que même il s'écrie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais tu agis en ce moment même où rien d'autre ne peut arriver. On nous fait savoir, Seigneur, que si nous avons des rivières que nous ne pouvons pas traverser, si nous avons des montagnes infranchissables, Dieu se spécialise en faisant des choses que les autres ne peuvent pas faire. Tu es un spécialiste de ses œuvres. Car tu sais pourquoi les choses se sont passées comme elles se sont passées ce jour-là au calvaire. Toi, étant Dieu, l'être infini, tu savais que cette heure devait venir, mais quand tout fut accompli, alors tu as montré que tu étais Dieu, tu as montré qui était le maître, tu as secoué la terre et les saints qui dormaient en son sein ressuscitèrent, tu as obscurci le soleil, et il fut aussi sombre que dans la nuit, montrant que tu étais Dieu. Mais tu avais semblé être silencieux si longtemps. Tirons-en donc cette conclusion qu'aussi longtemps que nous marchons dans le Saint-Esprit, conduit par la main de Dieu, malgré tout ce qui peut nous paraître mal, pourtant, nous faisons face au calvaire. Dieu parlera à son heure, à l'heure voulue. Maintenant, Dieu notre Père, nous te demandons le pardon de nos péchés et de nos fautes, et nous te demandons que ton esprit nous conduise. Conduis-nous comme la colombe a conduit l'agneau. Permets que nous supportions tout ce qui peut nous arriver, en sachant que tout ce que Dieu fait est bien fait, et que tout sera bien à la fin. Sois avec nous aujourd'hui dans ce service. Nous te demandons de bien vouloir sauver ceux qui peuvent être sauvés et qui recherchent leur salut. Remplis de la vie éternelle ceux qui la cherchent. Nous te prions de guérir ceux qui sont malades et affligés et qui sont venus chercher leur guérison. Et nous te louons pour cela. Nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Maintenant, ce matin, désirons attirer votre attention sur le texte que nous avons choisi de commenter ce jour-là sur le calvaire. Cela pourrait paraître être un peu hors de saison. On devrait en parler le vendredi saint. On devrait plutôt se souvenir du calvaire tous les jours. Nous avons entendu tant de choses sur lui. Nous avons lu tant de choses sur lui. Les prédicateurs ont fait des sermons sur lui depuis le début de notre ère. Des chanteurs ont chanté sur lui à travers les siècles. Des prophètes l'ont prédit 4000 ans avant qu'il n'arrive. Et les prophètes d'aujourd'hui rappellent le moment où il est arrivé. C'est un jour tellement important. C'est un des jours les plus importants que Dieu ait jamais fait. Et si le calvaire est tellement important pour la race humaine, je pense qu'il est bon pour nous de remonter en arrière et d'examiner et de voir ce qu'il signifie exactement pour nous. Car je suis certain qu'en cette heure extrême que nous vivons, nous cherchons à savoir le plus de choses possibles sur l'importance de Dieu. Et nous sommes ici pour apprendre tout ce que nous pouvons découvrir, pour voir ce que cela signifie pour nous et ce que Dieu a fait pour nous et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. C'est pour cela que nous venons à l'église. C'est pour cela que le prédicateur prêche. C'est pour cela qu'il étudie l'écriture, médite sur l'écriture et y cherche son inspiration. Parce qu'il est un serviteur du peuple de Dieu et il essaye de trouver quelque chose que Dieu voudrait dire à son peuple, quelque chose qui les aide. Peut-être pour les condamner dans leurs péchés, mais ce serait quand même une aide pour eux, pour les élever, pour qu'ils puissent abandonner leurs péchés et alors s'élever pour servir le Seigneur. Et les pasteurs devraient rechercher ces choses. Si ce jour est tellement important qu'il est un des plus grands jours, considérons trois choses différentes qui font que ce jour est important pour nous. Nous pourrions en prendre des centaines, mais ce matin, j'ai simplement choisi trois choses vitales que nous allons examiner pendant quelques instants pour que nous sachions ce que le calvaire signifie pour nous. Je prie pour qu'il condamne chaque pécheur ici présent, pour qu'il fasse que chaque saint s'agenouille, pour que chaque personne malade lève la tête vers Dieu et sorte d'ici guérie, que chaque pécheur soit sauvé, que chaque brebis égarée revienne et ait honte d'elle-même, et que chaque saint se réjouisse et ait toujours un nouvel espoir. La grande signification importante du calvaire pour nous et pour le monde, c'est qu'il règle la question du péché une fois pour toutes. L'homme fut trouvé coupable du péché, et le péché était une offense qu'aucun homme ne pouvait effacer. L'offense était si grande que personne ne pouvait en payer le prix. Je crois vraiment que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, que l'amende soit tellement grande qu'aucun homme ne puisse la payer, pour qu'il puisse le faire lui-même. Maintenant, la rançon du péché, c'est la mort. Nous étions tous nés dans le péché, pétris dans l'iniquité, et nous sommes venus au monde en disant des mensonges. En conséquence, aucun d'entre nous ne vaut quelque chose. Et on ne pouvait pas trouver sur la terre quelqu'un qui vaille quelque chose. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé au ciel. Lucifer, le démon, fut condamné pour sa désobéissance avant d'avoir jamais touché terre. Le péché a commencé au ciel, où Dieu mit les anges et tous les autres sur la même base qu'il avait mis l'humanité. La science, l'arbre de la science, l'arbre de vie et l'arbre de la science, et l'homme pouvait choisir. Quand Lucifer put choisir le premier, il voulut quelque chose de plus que ce que Dieu avait. Ce fut le commencement de la tribulation. Le péché appelait une réparation. La réparation était la mort. La mort était la rançon. Et c'est, nous pourrions entrer dans de nombreux détails sur ce sujet, parce que je ne crois pas qu'il n'y a qu'une mort. Il y a une vie. Je crois qu'un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir. Et je crois qu'il y a un anéantissement complet de l'âme qui a péché. Car la Bible dit, l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Pas l'homme, l'âme qui pèche. Ainsi, Satan doit certainement mourir et être complètement détruit. Je suis en désaccord complet avec les universalistes qui disent que Satan sera sauvé. Il a péché, il est la source du péché, son âme a péché, il était un esprit. Cet esprit sera totalement anéanti pour qu'il n'en reste rien. Quand le péché frappa la terre au commencement du monde, comme un voile d'obscurité tombant des cieux, il paralysa littéralement la terre. Il précipita en esclavage toutes les créatures de la terre et toute la création de Dieu. L'homme était l'esclave de la mort, de la maladie, des ennuis, des tristesses. Toute la nature tomba avec lui. Le péché était un anesthésique qui paralysa vraiment la terre. Nous étions rivés là, sans espoir, parce que toutes les créatures de la terre y étaient soumises, ainsi que tout être naissant sur terre. Ainsi, le rachat devait venir de quelque endroit où le péché n'existait pas. Il ne pouvait venir de la terre. L'un d'entre nous ne pouvait racheter les autres. Le salut devait venir d'un autre. C'est pourquoi, lorsque l'homme comprit qu'il était séparé de son Dieu, il devint un vagabond. Il pleura, il cria, il peina, il erra dans les montagnes et dans le désert, cherchant une ville dont le fondateur et le bâtisseur seraient Dieu. Car il savait que s'il pouvait un jour revenir en présence de Dieu, il pourrait parler avec lui. Mais il n'y avait pas de chemin de retour. Il était perdu, il ne savait pas de quel côté se retourner. Alors il devint errant, essayant de trouver un endroit où il pourrait trouver une voie de retour. Au plus profond de lui-même, quelque chose lui disait qu'il venait d'un endroit qui était parfait. Il n'y a pas une seule personne ici présente ou dans les fidèles qui entendront la bande magnétique qui fera le tour du monde. Il n'y a personne ici ou ailleurs qui ne recherche cette perfection. Vous payez vos factures et vous pensez que c'est fini. Mais quand vous avez payé vos factures, alors quelqu'un de votre famille tombe malade. Et quand il est guéri, alors vous avez d'autres factures à payer. Un jour, vous découvrez que vos cheveux blanchissent et alors vous désirez redevenir plus jeune. Il y a constamment toujours quelque chose à cause de cette vague de péché. Mais dans votre cœur, quelque chose prouve que la perfection existe quelque part, puisque vous la cherchez. Quelque part, il y a quelque chose. C'est la raison pour laquelle plusieurs fois par jour, un pécheur est encore en train de chercher. Une jolie fille se coupera les cheveux pour être à la mode. Elle peindra son visage pour se rendre jolie. Elle mettra des vêtements pour montrer les formes de son corps, parce que c'est la seule chose que vous pouvez trouver. Trouver quelque part, pour essayer de trouver quelque chose pour revenir à elle. Quand elle peut faire siffler un homme sur son passage, ou lui faire signe, ou qu'il désire flirter avec elle, un jeune homme fera la même chose pour les femmes. Il essayera de se faire remarquer par elles. Des gens construiront une maison d'une certaine façon pour qu'elle paraisse un peu mieux que la maison du voisin. Cela arrive constamment. Nous cherchons quelque chose. Et il y a toujours quelque chose de mieux. La jeune fille trouvera une autre jeune fille qui est beaucoup plus à la mode qu'elle. Le voisin trouvera une maison qui a une meilleure apparence que la sienne. La femme trouvera une autre femme mieux habillée qu'elle. Quelque chose en nous nous fait toujours rechercher quelque chose, et cela montre que nous sommes perdus. Nous voulons trouver ce quelque chose qui nous apportera cette satisfaction, qui nous rassasira, mais il apparaît que nous ne pouvons pas le trouver. Les êtres humains ont essayé de le trouver à travers les siècles, ils ont pleuré, ils ont crié, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu imaginer, ils l'ont cherché à travers le monde, et pourtant, ils ne l'ont pas trouvé. Enfin, un jour, c'est ce jour-là, au calvaire, il y en a eu un qui descendit de la gloire. Un, dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui descendit dans la gloire. Et il y eut le calvaire. Ce jour-là, la rançon fut payée, et la question du péché fut réglée pour toujours, et nous ouvrit la route vers cette chose dont nous avions faim et soif. Il nous amena à un lieu de satisfaction. Aucun homme qui a visité le calvaire ne l'a vu comme il est vraiment, car il ne peut jamais être le même. Quand il atteint cet endroit, il trouve tout ce dont il a rêvé ou tout ce qu'il a désiré. Ce fut un jour si important et une chose tellement importante que le monde en fut ébranlé. Le monde a été secoué comme il ne l'avait jamais été auparavant quand Jésus mourut au calvaire pour régler la question du péché. Ce monde pécheur fut obscurci, le soleil se coucha au milieu de la journée et eut une prostration nerveuse, les rochers tremblèrent, les montagnes se séparèrent, les cadavres se précipitèrent hors de leurs tombeaux. Qu'arrivait-il? Dieu s'anéantissait sur le calvaire. Il blessa pour toujours cet animal appelé Satan. Depuis lors, Satan est devenu plus vicieux parce qu'il a éclairé le genre humain. Et tout le monde sait qu'un animal blessé est très dangereux, rampant sans cesse malgré son dos brisé. Donc, Satan fut brisé au calvaire. La terre a prouvé qu'il l'était. La plus forte rançon qui fut jamais payée le fut au calvaire par le seul qui pouvait la payer. C'est là que fut payé le grand prix. C'est une des choses. Dieu l'avait exigé. Aucun homme n'en était digne. Aucun homme n'en était capable, aucun homme ne pouvait le faire, et Dieu vint lui-même, il se fit homme, il vécut une vie humaine soumise aux désirs humains, et il fut crucifié au calvaire. Alors, là, quand Satan pensa qu'il ne voudrait pas le faire, qu'il ne voudrait pas aller jusqu'au bout, lorsqu'il alla à Gethsémané, et Dieu subit toutes les tentations que n'importe quel homme peut subir, il les subit exactement comme un homme, mais il a payé la rançon, et c'est ce qui obscurcit le monde, comme un anesthésique pour une opération. Quand un docteur donne un anesthésique à un homme, il le maîtrise avant de pouvoir le faire. Et quand Dieu fit l'opération pour l'Église, il donna un anesthésique au monde. La nature a eu une convulsion. Rien d'étonnant. Dieu, incarné, mourait. C'était l'heure que le monde avait attendue, et pourtant, beaucoup d'hommes ne le savaient pas. Il en est de même aujourd'hui. Beaucoup cherchent ces choses, et pourtant, ils ne les reconnaissent pas. Ils ne voient pas la sortie. Ils essayent encore les plaisirs et les choses de ce monde, essayant de s'en échapper. Beaucoup de poteaux indicateurs ont montré ce jour. Beaucoup de grands présages avaient été donnés par l'agneau, par le bœuf, par la tourterelle et toutes les choses, et pourtant ce jour devait être. La force de la mort ne pouvait être dominée, car Satan possédait la terre. Les rochers qu'il avait autrefois arpentés sur la terre étaient du soufre brûlant. Lucifer était le fils du matin, et il marchait sur la terre quand elle était un volcan brûlant. Ces mêmes rochers qui s'étaient refroidis éclatèrent en flammes, quand Jésus mourut sur le calvaire, la rançon était payée et l'esclavage de Satan était rompu. Dieu remit entre les mains de l'homme le chemin de retour qu'il cherchait. Il ne devait plus pleurer. Quand Dieu cassa les reins de Satan au calvaire, la cause du péché, de la maladie, cela ramena tous les mortels de la terre en la présence de Dieu avec le pardon des péchés. Alléluia. Nos péchés sont pardonnés. Satan ne nous éloigne plus de Dieu. Une grande route est tracée. Un téléphone est établi. Il y a une ligne vers la gloire. Chacun peut atteindre cette ligne. Si un homme est couvert de péché, Il est relié à l'ancien standard. On peut lui pardonner ce péché. Non seulement cela, mais la rançon de ce péché a été payée. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas à dire, je ne suis pas digne. Certainement vous ne l'êtes pas. Vous ne pourriez jamais l'être. Mais un qui a de la valeur a pris votre place. Vous êtes libre. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Vous n'avez pas à rechercher le plaisir ici sur terre. Parce que le cantique dit, il y a une fontaine pleine de sang venue des veines d'Emmanuel, où les pécheurs plongent sous le flot et perdent toutes les taches du péché. Vous ne pouvez pas vous perdre. Il y a une grande route et un chemin, et il est appelé le chemin de la sainteté. Celui qui est souillé ne passe pas sur ce chemin, car il doit passer d'abord par la fontaine, puis il prend la grande route de Dieu. Il a brisé les pouvoirs de Satan. Il a ouvert les portes de l'enfer pour chaque homme enfermé sur cette terre, dans la prison, ayant peur de la mort, car il ne savait pas ce que la mort serait pour lui sur le calvaire. Il a ouvert les portes des cellules. Il a laissé tous les captifs partir librement. Vous n'avez plus besoin d'être torturé plus longtemps par le péché. Vous n'avez plus besoin de pécher plus longtemps, de boire, de fumer, de jouer, de mentir. Vous pouvez être honnête, juste et droit, et Satan n'y peut rien, parce que vous avez saisi une ligne, la ligne de la vie. Elle est ancrée dans le rocher des siècles. Rien ne peut vous en arracher. Aucun vent ne serait assez violent. Non, rien, pas même la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Voilà ce que le calvaire a signifié. Les hommes qui étaient en esclavage ont été libérés. Les hommes qui autrefois craignaient la mort ne peuvent plus la craindre. Un homme qui désirait ardemment une ville dont le fondateur et le constructeur serait Dieu peut marcher sur la grande route et tourner la tête vers le ciel parce qu'il est libre. Alléluia! Il est racheté. Il n'a plus besoin de douter plus longtemps car il a le moyen de savoir s'il est juste ou non. Dieu nous donne la vie. Nos péchés sont effacés. Ce jour-là, sur le calvaire, il a payé la rançon. Quand nous voyons tout cela, il n'y a rien d'étonnant à ce que le poète ait écrit. Au milieu des rochers se fendant et des cieux assombris, mon sauveur a courbé la tête. Il est mort. Le voile déchiré a révélé le chemin vers les joies du ciel et du jour éternel. Abraham n'a plus besoin d'errer dans la campagne à la recherche d'une ville. Le pécheur n'a plus besoin de se demander s'il peut être sauvé ou non. Le malade n'a plus besoin de se demander s'il peut être guéri ou non. Le déchirement du voile ce jour-là au calvaire a ouvert le chemin vers une victoire totale. Dieu nous a donné la puissance de son Saint-Esprit pour triompher de toutes ces choses. Il nous demande simplement de croire à ce qui est arrivé ce jour-là sur le calvaire. Il n'y a jamais eu un jour comme celui-là. Il n'y en aura jamais plus un autre. Ce n'est plus nécessaire. La rançon est payée et nous sommes rachetés. Oh, grâce soit rendue à Dieu. Nous sommes rachetés. Vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Il n'y a plus d'énigme. Le péché a été enlevé. Le voile, le rideau est tiré. Et nous sommes engagés sur une grande route, non pour nous poser des questions, mais pour croire et pour avancer. Nous marchons directement dans la grande présence de Dieu. Abraham et les autres savaient que pendant qu'ils cherchaient la ville, ils savaient qu'ils venaient de quelque part. Quelque chose était arrivé. Ils vivaient sur une terre paralysée. Il y avait des tremblements de terre, des tempêtes, des guerres, des assassinats. Le loup et l'agneau se nourrissaient l'un de l'autre, ou le loup mangeait l'agneau, et le lion mangeait le bœuf. Ce n'est pas juste. Il y a quelque chose de mal. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de mal. L'homme tuait son frère, le père tuait son fils, le fils tuait son père. Il y a quelque chose de mal. L'homme devient vieux, il meurt. Il meurt de consomption. La maladie le frappe, il est en esclavage. Les arbres poussent, mais ils ne sont pas immortels, ils meurent. Les montagnes changent, les mers se dessèchent, les eaux manquent. Il y a quelque chose de mal. Et Abraham cherche un endroit, une ville où cela n'arriverait plus. Il savait que s'il pouvait jamais revenir en présence de celui qui a tout fait bien, il pourrait en parler avec lui. Ô pécheur, quel privilège ce matin de savoir que vous connaissez la route maintenant. Ce jour-là, sur le calvaire, il vous l'a ouverte, car tous ses patriarches le cherchaient. Le calvaire vous l'a donné gratuitement. Comment pourriez-vous le mépriser? Comment pourriez-vous le mépriser pour rejoindre une église de dénomination? Comment pourriez-vous le mépriser pour le remplacer par quelque chose? Les plaisirs du monde, pourquoi ne pas l'accepter? L'ouverture du voile ramène un homme directement à la présence de Dieu, lavé de tout péché, et lui ouvre la route vers ce qu'il cherche, le ciel, la gloire, la paix, la vie éternelle. Tout cela est devant lui. Ce jour-là, ce fut le coup mortel porté à la puissance de Satan. Il a tout terminé. Je le vois là. Il était l'agneau de Dieu, l'agneau de l'Éden dès la première seconde, quand Abel, par sa foi, offrit à Dieu un meilleur sacrifice que Caïn. Il a dû attacher l'agneau par le cou, le haler sur le rocher, prendre un rocher dans la main en guise de lance, lui renverser la tête et le frapper et le lacérer jusqu'à ce qu'il meure et que sa laine baigne dans son propre sang. Il baignait dans son sang. C'était une ombre, mais ce jour-là au calvaire, il y avait un agneau de cette terre. Mais c'était un agneau de Dieu qui mourait baignant dans son propre sang. Il était lacéré, déchiré, battu, on lui crachait dessus, on le giflait et tout ce que l'on pouvait imaginer. Et le sang tombait de sa tête bénie. Quand l'agneau d'Abel mourut, il mourut en parlant un langage qu'Abel ne pouvait pas comprendre, il bêlait. Et quand l'agneau de Dieu mourut ce jour-là sur le calvaire, il parla un langage que personne ne comprit. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était l'agneau de Dieu, déchiré et brisé. Il était l'agneau même auquel pensait Abel. Quand il vit la race promise de la femme, il était l'agneau que Daniel vit, qui était sculpté dans la montagne sans main. C'était la roue au milieu de la roue pour les prophètes. Tout ce qu'ils avaient prédit s'accomplissait ce jour-là, sur le calvaire. Cela amenait la grande chose, cela cassait les reins de Satan. Nous devrions rechercher d'abord ce que ce jour-là signifiait. Deuxièmement, nous devrions voir ce que ce jour a fait pour nous. Enfin, troisièmement, regardons ce que nous devrions faire pour ce jour, ce que nous devrions faire. D'abord, nous devrions le scruter minutieusement, car c'est un grand jour, le plus grand jour de tous les jours. La rançon du péché a été payée, la puissance de Satan a été brisée, et maintenant, nous voulons voir ce que nous devrions faire en retour. Quand Jésus mourut au calvaire, sur le calvaire, ce jour-là, non seulement il a payé la rançon de nos péchés, mais il a aussi ouvert une route pour que nous puissions le suivre. Pour nous, représentant l'Adam déchu qui a été racheté, comme l'Esprit conduisit Adam, le premier Adam, racheté par l'Esprit qui avait le contrôle sur la nature entière, alors nous, le deuxième Adam ou l'homme de la terre, avons été rachetés par le Christ depuis le jour du calvaire, pour que nous puissions le suivre. Alors, quand il est mort au calvaire, il a tracé une route, il a rendu l'Esprit, le Saint-Esprit qu'il avait envoyé sur la terre, pour que vous et moi puissions vivre de lui. Le calvaire signifie pour nous que nous devons le suivre. D'abord, examinons ce fait, voyons ce que cela a signifié pour nous, et en conséquence ce que nous devons faire. Vous et moi, que devons-nous faire? Maintenant nous disons, bon, j'apprécie cela, c'est très beau, mais ce n'est pas tout. Nous devons l'accepter, et l'accepter, c'est accepter sa personne, le Christ, dans nos cœurs. Alors nous sommes libérés du péché. En conséquence, aucune chaîne du péché ne nous entrave plus. Dieu, exactement comme si nous n'avions jamais péché. Le sacrifice parfait nous a rendus parfaits, car Jésus a dit, « Soyez donc parfaits, même comme le Père dans le ciel est parfait. » Alors, il n'y a plus rien à faire, car nous sommes rendus parfaits en la présence de Dieu. Maintenant, attention de ne pas perdre cette perfection. Si nous ne sommes pas attentifs, nous essayons de regarder ce que nous étions, et tant que nous regardons en arrière, le sacrifice ne signifie plus rien pour nous. Oh, Église du Seigneur, ne peux-tu pas le voir? Je ne voudrais pas essayer de le faire. Je ne peux pas et vous non plus. Il n'y a aucune raison d'essayer. Pour commencer, vous êtes perdus tant que vous considérez ce que vous avez fait. Ne regardez donc pas ce que vous avez fait. Regardez ce que ce jour-là, sur le calvaire, on vous a fait. La rançon a été payée. La question a été réglée. Vos péchés étaient rouges. Ils sont aussi blancs que la neige. Rouge écarlate, blanc comme de la laine. Alors vous n'aviez plus de péché. Vous étiez parfaitement sans tache. Quoi que vous ayez fait ou ce que vous faites, vous êtes sans péché. Du moment que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vos péchés vous sont pardonnés. Tout ce qui est pardonné est remis et oublié. Alors, qu'est-ce que cela fait? Après votre purification, cela vous donne son esprit pour le suivre et pour faire comme il a fait pour ceux qui suivent. Il n'était qu'un homme, l'homme parfait. Il a donné sa vie et il vous donne un exemple. Maintenant, que devons-nous faire? Maintenant, la première chose que je veux dire est, Jésus n'a jamais vécu pour lui-même. Sa vie a été consacrée aux autres. Cela est parfaitement la vie éternelle. Quand vous dites que vous allez à l'église et que vous menez une vie édifiante, c'est très bien. Mais quand vous vivez votre vie pour vous-même, vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Cela a été prouvé par l'agneau de Dieu. Il a vécu et il a eu la vie éternelle parce qu'il n'a pas vécu pour lui-même. Il a vécu pour les autres. Et vous recevez la vie éternelle en recevant ce jour-là du calvaire. Alors, vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour les autres. Quelqu'un a dit, comment pouvez-vous supporter que les gens vous insultent? Vous ne vivez pas pour vous-même, vous vivez pour les autres. Pour pouvoir racheter cet homme, vous devenez des fils. Et l'ennui, c'est que l'Église a oublié que vous étiez des fils. Vous êtes des fils. Vous prenez la place de Christ. Vous êtes des fils. Aussi, ne vivez pas pour vous. Vivez pour les autres. Très bien, frère Branham. Oh, je peux vivre pour ce frère, parce que c'est un homme de bien. Ce n'est pas cela du tout. Vivez pour cet homme qui vous hait. Vivez pour cette personne que vous tueriez si vous le pouviez. C'est ce qu'ils lui ont fait, et il est mort pour pouvoir les sauver. C'est cela la vie éternelle. Quand vous aurez cela ancré au plus profond de votre cœur, alors vous aurez le ciel en face de vous. Mais vous aurez tout sacrifié, vous aurez tout abandonné, comme le mouton donne sa laine. Vous regarderez au calvaire. J'espère que ceci vous aide à atteindre un certain endroit. C'est ce que le tabernacle, c'est ce que tous les gens doivent faire, découvrir ce que vous êtes et quel est votre but. L'Église, ce n'est pas aller à l'Église uniquement pour jouer de la musique et chanter des cantiques. L'Église est un lieu de correction. Le jugement commence par la maison de Dieu. Nous devons nous considérer comme morts à nous-mêmes et vivants dans le Christ. Alors, il a tracé la route pour que nous puissions nous consacrer à son service pour le suivre. Si nous le suivons, nous vivons la vie qu'il a vécue. Cela est merveilleux. Jésus l'a dit et redit. Laissez-moi vous faire quelques citations. Écoutez attentivement. Ne laissez rien échapper de ce message. Jésus a dit que ce jour-là, il séparerait les gens comme s'ils étaient des brebis et des boucs, et qu'il dirait aux boucs, mettez-vous à ma gauche, et aux brebis, mettez-vous à ma droite. Et il dit au bouc, éloignez-vous de moi, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai été en prison, et vous ne m'avez pas visité. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été malade, et vous ne m'avez pas visité. Aussi, éloignez-vous de moi. Et aux brebis, il dira, j'ai été malade, et vous m'avez soigné. J'ai eu faim, et vous m'avez nourri, j'étais nu, et vous m'avez vêtu. Et remarquez, ne manquez pas de l'enregistrer, vous, les églises. Gardez ceci dans votre cœur pour toujours. C'était fait si spontanément. Les gens ne le faisaient pas pour accomplir un devoir. Un homme qui vous donne une chose ou une autre parce qu'il doit le faire, un homme qui vous nourrit parce qu'il doit le fait par égoïsme. Ce devrait être instinctif. Ces brebis furent tellement surprises qu'elles dirent, « Seigneur, quand as-tu eu faim et t'avons-nous nourri? Quand as-tu été nu et t'avons-nous donné des vêtements? Quand as-tu eu soif et t'avons-nous donné à boire? Quand as-tu été malade et t'avons-nous soigné? » Ils le faisaient instinctivement, par amour. Ils vivaient simplement leur vie. Dieu permit aux gens de voir ce que le calvaire faisait pour nous, tellement naturellement. Quand tu as été, Seigneur, nous ne l'avons jamais su. Voyez ce que Jésus a dit. Tout ce que vous avez fait à ceux-ci, c'est à moi que vous l'avez fait. Une vie de sacrifice. Vous le faites sans compter, sans réfléchir. Vous êtes tellement mort, mort aux choses de ce monde, vous vivez tellement dans le Christ, et vous êtes tellement engagé sur la grande route, que ces choses sont instinctives. Vous les faites, un point c'est tout. Vous ne calculez pas. Maintenant, le Seigneur voudrait que je fasse là. Ce n'est pas du tout cela. Vous êtes une partie de lui. Son esprit est en vous. Et vous agissez comme il a agi, vous comprenez? Il y a un chemin qui paraît bon à l'homme, mais au bout de ce chemin, il y a la mort. Ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père. Simplement de tout leur cœur, simplement, librement. Maintenant, ce jour-là, sur le calvaire, il a payé cette rançon pour que nous puissions être comme cela. Ne dites pas, vous savez, la veuve Jones une fois a manqué de charbon et je suis allé lui en acheter. Je vous dis que j'ai vu un frère qui avait besoin d'un complet et je suis allé lui en acheter un. Dieu merci, je suis un chrétien. Oh, vous pauvres égoïstes misérables, vous hypocrites, que votre main droite ignore ce que fait votre main gauche et que la gauche ignore ce que fait la droite. Soyez tellement morts dans le Christ que vous le fassiez de toute façon, c'est votre nature, c'est votre façon d'être. Vous le faites instinctivement et naturellement. C'est simplement la vie qui vit en vous. Vous êtes complètement soumis à cet esprit. C'est lui qui vit en vous. Oh, sentez-vous cet esprit béni, cette vie. Ce n'est pas moi qui vis, a dit saint Paul, mais le Christ qui vit en moi, tellement naturellement. Bien, je vous dis, frère Branham, nous sommes chrétiens ici, nous aidons ces gens, nous aidons les gens. Oh mon Dieu, honte à vous! Ce n'est pas cela être chrétien. Être chrétien, c'est faire ces choses instinctivement. Vous les oubliez complètement, faites cela. Le Christ a complètement abandonné sa vie à Dieu. Il s'est donné comme un serviteur de l'humanité. Il a donné sa vie librement. Il n'était pas obligé de le faire. Il ne l'a pas fait à contre-cœur. Il n'a pas dit, « Maintenant, frère, vous devriez tous penser beaucoup à moi parce que je vais mourir pour vous. » Il n'en a jamais dit un mot. Il est mort, simplement, parce que Dieu était en lui. C'est Dieu en vous, c'est Dieu en moi qui nous rend plein d'amour pour notre prochain. Les brebis d'un côté, l'un d'entre eux dira, « Viens, Seigneur, j'ai fait ceci. Et Seigneur, j'ai fait cela. » Le Seigneur dira, « Éloigne-toi de moi, toi indigne, car je ne t'ai jamais connu. » Si l'Église pouvait revenir à ses faits fondamentaux, ce ne sont pas des choses que vous essayez de faire, que vous vous astreignez à faire. Ce sont des choses qui sont nées en vous. Pardonnez-moi, mes amis pentecôtistes. Je suis pentecôtiste, mais mes amis pentecôtistes ont besoin d'un lieu de réunion où il faut beaucoup de musique, un orchestre, des applaudissements, ou des tambourins pour faire crier. Cela n'est que de l'émotivité. Les orchestres jouent avant la bataille pour provoquer chez les gens des instincts guerriers. Je crois à l'influence de la musique. Je crois aux applaudissements. Oui, je crois à ces choses, c'est très vrai. Nous devons avoir cela. Mais vous avez oublié les choses essentielles. Une vie de sacrifice. Que Dieu vive en vous. Faire instinctivement ce qui est bien, parce que c'est bien, tout en continuant à vivre sans même y penser. Alors, attention, vous voyez ce qui arrive. Vous êtes sur la grande route. C'est cela ce que le calvaire a signifié pour vous. Vous ouvrir la grande route, vous y engager. Maintenant, Souvenez-vous, vous ne pouvez pas être à moitié brebis et à moitié bouc. Ils ne se mélangeront pas. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, « Oh oui, vous savez, nous avons une organisation de notre groupe. Nous aidons les pauvres, nous faisons ceci et cela. » C'est très bien, frère. Mais vous chantez vos propres louanges. Ne faites pas cela. Jésus a dit, « Fais ton aumône dans le secret. » Que ce soit quelque chose d'instinctif en vous, cela n'a pas plus d'importance que d'aller chercher un verre d'eau. Vous avez soif. Si votre prochain a soif aussi, pensez également à lui. Votre prochain est dans le besoin. Pensez à lui comme si c'était vous qui étiez dans le besoin et continuez à vivre sans y penser plus longtemps. Maintenant, vous ne pouvez être à moitié brebis et à moitié bouc. Aussi, si vous dites, notre Église a une organisation, nous donnons aux pauvres, nous faisons ceci, nous faisons cela, et bien d'autres choses encore. Si vous faites tout cela sans avoir la vie du Christ en vous, vous faites tout le reste absolument en vain. Paul a dit dans sa première lettre aux Corinthiens dans le chapitre 13, « Quand je distribuerai tous mes biens pour l'entretien des pauvres, quand je livrerai mon corps au feu, si je n'ai pas l'amour, cela ne m'avance à rien. Cela est dur, frère, mais cela est la vérité. Vous devez en venir à ce fait. Reconnaissez ce que le calvaire a fait pour vous. Nous le regardons et nous disons, « Oh oui, c'est très beau, mais ce n'est pas cela. Si ce Fils de Dieu a dû aller au calvaire pour être crucifié, chaque fils qui naît doit gravir un calvaire. Il doit aussi avoir un calvaire. Vous devez vivre ce jour sur le calvaire. Je dois avoir ce jour-là sur le calvaire. Cela règle la question du péché. Ce n'est pas de serrer la main avec le prédicateur, pas d'émotion à l'église, ni à la suite d'une lecture. N'entrons pas dans les ordres, mais entrons dans la foi par une nouvelle naissance. Jésus n'a jamais rien écrit. Il n'a jamais ordonné personne. Il a donné une naissance. C'est comme cela que nous sommes entrés en lui. De ce moment, nous avons tout naturellement vécu une vie chrétienne. Autre chose, moitié brebis, moitié bouc, cela n'existe pas. Vous n'êtes pas moitié brebis et moitié bouc. Vous êtes ou une brebis ou un bouc. Maintenant, si vous vous contentez de faire de bonnes œuvres et pensez que vous pouvez entrer dans la vie éternelle, alors on n'aurait pas eu besoin d'un jour au calvaire. La loi aurait suffi. Mais s'il a souffert ce jour au calvaire, ce n'est pas pour que nous soyons membres de telle ou telle église, mais pour que nous soyons les fils et les filles de Dieu. C'est cela que fut le jour au calvaire. C'est ce que cela signifie pour vous. Si vous pouvez le faire, suivez Jésus et agissez comme lui. Maintenant, la rivière ne coule pas en même temps en amont et en aval. La rivière ne coule que dans un sens. De même que l'Esprit de Dieu ne va que dans un sens. Rien ne se mélange à lui. Il va dans un seul sens. Observez Jésus. Il a dit, « Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez même de plus grandes, car je vais vers mon Père. » Je ne dis pas ceci spécialement pour ce tabernacle, vous comprenez, mais ces paroles sont enregistrées. Des dizaines de milliers les entendront dans le monde entier. Maintenant, je vais poser une question critique. On m'a souvent dit qu'il disait, « Aimez-vous croire à la Bible ?» Jésus a dit, ces œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez même de plus grandes, car je vais vers mon Père. Comme vous vous trompez, monsieur. Comme vous pouvez vous écarter de la vérité avec vos théologies intellectuelles, vos conceptions particulières surtout. Mes chers amis égarés, ne pouvez-vous pas comprendre que cette Bible est interprétée spirituellement? Jésus a remercié le Père, et il en a caché le sens, aux sages et aux intelligents, aux sages, aux érudits et aux prudents, et il le révélera aux enfants pour qu'ils puissent venir au calvaire. Maintenant, attention, Jésus a dit, attention comme il l'a dit, les œuvres que je fais, il fait le bien maintenant, les œuvres que je fais maintenant, guérir les malades, ressusciter les morts, rendre la vue aux aveugles, ces choses vous les ferez aussi, car je vais vers mon Père. Dans quelque temps, le monde ne me verra plus. Pourtant, vous, vous me verrez. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Je ne vous laisserai pas sans le Consolateur. je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit, que le monde ne peut pas recevoir et pourtant vous, vous pourrez le recevoir. Maintenant, remarquez la puissance que doivent avoir ces grands accomplissements dans l'Église. Non seulement pour guérir les malades par la prière, pour chasser les démons par la prière, mais aussi pour que la vie éternelle soit donnée aux croyants. Le Saint-Esprit vient et il est confié aux mains de l'Église pour donner la vie. C'est cela que signifie le calvaire. Il a pris des hommes et des femmes avilis, dégradés. Il les a élevés en endroit pour qu'ils soient des fils et des filles de Dieu, pour guérir les malades et donner la vie éternelle. En donnant le Saint-Esprit aux croyants obéissants, des hommes qui étaient incroyants furent faits croyants et ils reçurent la vie éternelle. Il est vraiment merveilleux de dire à cette femme malade couchée ici, « Je peux faire une prière de foi, elle sera guérie. » Cela est une grande chose. C'est ce qu'il faisait alors, mais il a dit, « Vous ferez des choses encore plus grandes. Je vais vous donner la puissance, non seulement de ressusciter les morts, mais de leur donner la vie éternelle, d'être éternel. Vous les pauvres, les aveugles, les misérables, comment ne comprenez-vous pas cela? Ne voyez-vous pas que c'est une très grande chose, que la plus grande chose qui puisse jamais arriver est de donner la vie éternelle aux gens? Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie qu'il a vécue, la vie qui était en lui, elle a été donnée aux autres. Un homme peut-il faire cela? Un fils de Dieu le peut. Jésus a dit, tous les péchés que vous remettrez seront remis, tous les péchés que vous retiendrez seront retenus. Maintenant, c'est ici que l'Église catholique et beaucoup d'autres ont fait une grande erreur. Ils ont dit, je vous pardonne vos péchés. Ce n'était pas cela. Comment les péchés sont-ils pardonnés dans la Bible? Pierre a répondu à cette question le jour de la Pentecôte. Il disait, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Comment pouvons-nous avoir ce que vous avez tous? Il leur donna la potion, le remède. Il leur dit ce qu'il fallait faire. Il dit, repentez-vous devant Dieu et que chacun de vous soyez baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans quel but? Pour la rémission de vos péchés. Voilà la plus grande œuvre. Combien d'entre vous, prédicateurs, combien d'entre vous qui écoutez mes paroles enregistrées sur bande magnétique, combien d'entre vous voulez-vous monter au calvaire ce matin pour voir à cet endroit ce que Dieu a fait pour vous et oublier vos croyances particulières et prêcher le pur évangile? Alléluia! C'est à votre portée maintenant. Qu'allez-vous en faire? Comment? La repentance et la rémission des péchés doivent être prêchées dans le monde entier en son nom, en commençant par Jérusalem. Que signifie le calvaire pour vous? Que vous fait cette journée? Est-ce qu'il vous a bourré la tête de théologie ou est-ce qu'il a fait de vous un chrétien? Terminé. Alléluia. Les péchés sont remis. Merci Jésus. Vous accomplirez de plus grandes que celles-ci. Vous voyez où sont les besoins, n'est-ce pas? De plus grandes œuvres que celles-ci. La rémission des péchés dans le nom de Jésus-Christ. Mais vos croyances, vos églises et ainsi de suite vous ont lié à un endroit où vous souriez encore au monde. Dites-moi. N'importe quel homme, n'importe quelle femme peut venir au calvaire et essayer d'être quelqu'un de grand parce que quelqu'un a dit quelque chose. Dites-moi où vous pouvez regarder le calvaire en face. C'est vrai, ce jour-là, sur le calvaire. Comment pouvez-vous passer un jour au calvaire et en revenir gonflé d'orgueil? Ou sortir d'une église comme un pantin pour prêcher une doctrine faite par l'homme? Comment ne vous rendra-t-il pas humble devant la parole de Dieu? Si vous n'allez jamais au calvaire, vous en reviendrez humble. Comment pouvez-vous désirer tenir une place importante dans votre église, avec une plume à votre chapeau, alors que Jésus, le Fils de Dieu, s'est humilié jusqu'à avoir son corps brisé, sa face couverte de crachats et la honte d'être dépouillé de ses vêtements? Est crucifié devant le monde, mais méprisant la honte. Comment pouvez-vous aller au calvaire et en revenir différent de ce qu'il était lui? Méprisé et honteux. Vous dites, bon, ils vont me chasser à coups de pied, laissez-les faire, vivez votre jour sur le calvaire, Dieu se chargera de vous, Laissez-moi vous répéter cette phrase. Vivez votre jour sur le calvaire. Dieu se chargera de vous. Prions maintenant. Seigneur, ô mon Dieu, emmène-nous tous maintenant au calvaire. Permets que nous nous dépouillons de notre moi, Seigneur, que nous soyons indifférents aux attaques des hommes, à ce que les autres peuvent dire. Comment le monde entier l'a tourné en dérision, s'est moqué de lui, mais il a été obéissant jusqu'à la mort, il a été obéissant jusqu'à la honte, il a été obéissant même sous le gouvernement fédéral. Et nous comprenons que lorsque Satan a frappé cette terre, il en est devenu le chef et le gouverneur. Il l'a proclamé de même devant notre Seigneur, il a dit, « Ces royaumes sont à moi, et j'en ferai ce que je veux. » Et nous comprenons que depuis ce jour jusqu'à maintenant, ce monde, sous la malédiction, a été dirigé par celui qui l'a maudit. Mais mon Dieu, ô mon Dieu, nous servons un royaume qui n'a pas été maudit. Dieu notre Père, que de grandes et merveilleuses choses tu as faites dans ce monde aujourd'hui. Tu as fait connaître ces grandes choses comme le film des 10 commandements et autres choses pour que les hommes et les femmes qui ne voudraient même pas s'approcher d'une église puissent voir ce que c'est. Le chemin de Dieu est un chemin rejeté par le monde parce que nous avons raison. Nous allons en Russie en régime communiste. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Nous sommes allés au calvaire. Nous nous sommes crucifiés avec le royaume de Dieu pour être un des siens. Ce que le monde dit n'a aucune importance. Nous prenons la route avec les quelques méprisés du Seigneur. Nous allons vers la résurrection. Nous croyons qu'elle est bientôt là, Seigneur, que nous ressusciterons dans un royaume qui triomphera de ce monde comme Daniel l'a prédit. Et il réduira le monde en menus fêtus de paille que le vent balayera des airs de battage. Mais la montagne, la pierre est devenue une grande montagne qui a recouvert la terre. Cette pierre viendra. Ô mon Dieu, nous voulons en être une parcelle. Permets que nous nous renions nous-mêmes, que nous prenions notre croix quotidienne. Accorde-nous, Seigneur, de vivre pour Christ, de vivre pour les autres. Si des personnes ici présentes ce matin et qui ne le connaissent pas comme le Sauveur, et qui voudraient que l'on prie pour elles dans la prière finale, et aimeraient que ce jour-ci soit leur journée au calvaire, que ces personnes veuillent bien lever la main et dire, « Priez pour moi, frère Branham, je veux le reconnaître comme mon sauveur. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Quelqu'un d'autre, que Dieu te bénisse, mon frère là-bas. Quelqu'un d'autre désire-t-il dire, « Je veux le connaître, je veux que cette journée soit mon jour au calvaire. » Je suis malade et fatigué. À quoi me sert d'hésiter à faire la seule chose pour laquelle je suis né? Je suis né pour être un fils de Dieu et je continue à être attaché aux choses de ce monde. Mon Dieu, laisse-moi être crucifié aujourd'hui. Laisse-moi me crucifier moi et mes idées pour que je puisse vivre avec Christ, vivre pour les autres. Je ne m'inquiète pas de ce que l'on peut me faire, ni si on se moque de moi ou si on me persécute ou si on mérite de moi. Permets-moi simplement de continuer à avancer, humblement, doux comme un agneau, comme il l'a fait. Un jour, il a promis de me ressusciter, le dernier jour. J'attends ce jour. Quelques autres personnes veulent-elles lever la main? Que Dieu vous bénisse, vous là-bas, et vous. Très bien, encore d'autres? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Encore d'autres avant la prière? Notre Père Céleste, on a dit quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, tous ceux qui croiront entreront dans l'Église. Ils croient vraiment de tout leur cœur, ceux qui viennent de lever la main. Je pense qu'ils ont cru de tout leur cœur. S'ils l'ont fait, il y a un étang qui est prêt ici. S'ils le veulent, que leurs péchés soient pardonnés, il y a quelqu'un ici qui peut les baptiser dans ce nom. Et le seul nom qu'il y a sous le ciel, qui a été donné aux hommes pour qu'ils puissent être sauvés. Car, comme il est dit dans l'Écriture que j'ai citée il y a quelques instants, cette repentance et cette remission des péchés doivent être prêchées en son nom au monde entier, en commençant par Jérusalem. Et à Jérusalem, quand la repentance et la rémission des péchés furent prêchées, l'apôtre leur parla des Écritures et leur dit qu'ils devaient d'abord se repentir et puis être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était l'affaire du prédicateur. Il leur appartenait de se repentir et il lui appartenait de les baptiser pour la rémission de leurs péchés. Tous les péchés que vous remettrez seront remis. Tous les péchés que vous retiendrez seront retenus. Ô Père, comment le monde a-t-il pu en arriver à une telle explosion de colère? Pourquoi ne pas croire simplement à l'Évangile? Ils ont même inventé de faux noms, de faux baptêmes, de faux baptêmes du Saint-Esprit, serrant la main des ministres du culte et employant les termes de Père, Fils et Saint-Esprit. Cela n'a jamais été dans l'Écriture. Cela vient d'un homme de Rome et non de l'enseignement chrétien. On ne le trouve nulle part dans la Bible. La rémission des péchés ne peut pas être donnée au nom de titre, mais au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père, nous savons qu'il est très impopulaire de parler de la sorte. Tes chemins ont toujours été impopulaires, mais ce matin, que les hommes et les femmes viennent à ce jour-là sur le calvaire. Le calvaire où Jésus, dédaignant ce jour, dédaignant d'être dépouillé de ses vêtements, d'être brisé, de recevoir des crachats et d'être raillé par le monde entier, par l'Église, par les gens qui auraient dû l'aimer, et qui pourtant, malgré tout cela, n'ouvrit pas la bouche et supporta tout et mourut pour ces gens qui se moquaient de lui. Ce matin, Dieu nous a emmenés au calvaire. S'ils disent que nous sommes fous, s'ils disent que nous avons mal compris l'Écriture, quoi qu'ils puissent dire, mon Dieu, ils ne peuvent se tenir devant Dieu et dire que c'est faux. Ils ne peuvent pas excuser leurs péchés par la Bible. La Bible révèle leur incrédulité, les péchés qu'ils commettent pour se rendre populaires, pour faire comme tout le monde, qu'ils viennent au calvaire ce matin et qu'ils commencent à Jérusalem, car la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés en son nom à toutes les nations en commençant à Jérusalem. Qu'ils soient crucifiés, brisés et couverts de crachats, qu'ils soient raillés et appelés de tous les noms possibles et imaginables, proférés par les renégats et les démolisseurs de l'Église. Puissions-nous ce matin, Seigneur, suivre les quelques méprisés du Seigneur. Puissions-nous marcher comme les apôtres, sans jamais nous écarter, ni à droite, ni à gauche, et dans la pureté de nos cœurs servir Dieu. Accorde-le-nous, ô Père. Maintenant, guéris les malades et les affligés qui sont rangés dans la ligne de prière. Que ceux qui lèvent la main se repentent sur le champ du fond du cœur. Puissent ceux qui sont restés à l'écart si longtemps s'avancer rapidement vers l'eau et que leurs péchés leur soient pardonnés au nom du sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.